Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Pascal Blanquet pour la parution de ses nombreux ouvrages, puisque Pascal Blanquet a comme caractéristique de produire entre 3 et 4 ouvrages par an, au moins depuis l'année dernière. Pascal Blanquet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de Canal Académie. Vous venez d'être nominé pour le prix Turgot pour votre ouvrage paru en début d'année 2008, semble-t-il, si je me souviens bien, qui s'appelle « Carnet monétaire », paru chez Economica, 27 euros et 280 pages. Alors cet ouvrage a été très remarqué à sa parution et il l'a été à nouveau, bien entendu, par cette présélection pour le prix Turgot pour la 22e édition qui se tiendra au Sénat le 5 mars prochain. Alors, je voudrais, avant qu'on revienne sur vos qualités d'auteur, vous présenter brièvement. Vous avez additionné l'École normale supérieure avec plutôt, je pense, spécialité sur les lettres.
L'histoire et l'économie, oui.
L'histoire de l'économie. Mais vous avez additionné à cette formation de base qui était quand même assez honorable l'IEP de Paris. Et puis, vous êtes aussi docteur en sciences de gestion de l'Université de Paris Dauphine, ce qui certainement explique ce que nous allons voir tout à l'heure dans vos capacités de production en termes d'auteur. Alors, je voudrais dire que simultanément à la publication de votre ouvrage « Carnet monétaire ». Vous avez publié dans cette même année-là trois autres ouvrages, toujours chez le même éditeur, « Valeur et temps », un essai chez Economica, « Carnet monétaire », je viens de le dire, « Tractatus economicus philosophicus », 66 pages, qui est un essai, qui reprend les thèses, qui se rapproche de celles de Wittgenstein. Et puis, donc, un quatrième ouvrage, Généalogie de l'économique. Toujours chez Economica, 137 pages, 17 euros. Donc, pour les amateurs de l'écriture de Pascal Blanquet, il n'y a que le choix. Et j'ajoute, et nous en dirons un mot en fin d'entretien, que vous ouvrez 2009 en faisant paraître, toujours chez Economica, un ouvrage là qui est probablement plus destiné à un public averti, la théorie globale de l'intérêt du cycle et de la mémoire chez Economica, qui est paru le mois dernier, 23 euros, 190 pages. Voilà. Alors Pascal Blanquet, il semble que vos parutions s'inscrivent dans une logique qui est de vous efforcer de faire un pont entre la philosophie et l'économie. Alors vous n'êtes pas vous-même philosophe.
En fait, moi, je viens d'un univers pluridisciplinaire, en fait, et ces ouvrages, il se trouve qu'ils paraissent simultanément en 2008-2009, mais leur écriture s'étale, en fait.
Voilà, c'est ça.
Sur beaucoup plus de temps. Il y a bien un temps où il faut mettre un point au bout des phrases, en fait, et donc j'ai décidé de le faire en 2008. Donc il y en a un certain nombre qui paraissent aujourd'hui, mais leur écriture s'est étalée depuis la moitié des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont essentiellement en effet pluridisciplinaires, croisant l'histoire, l'économie, la finance et la philosophie. Toutes disciplines que j'ai pu étudier étant plus jeune.
Alors étudier, mais que vous avez enrichi par votre expérience professionnelle, puisque vous avez occupé des responsabilités très importantes dans un grand groupe bancaire européen, à la fois chef économiste, puis donc directeur de la gestion, de l'asset management. Et donc vous avez pu enrichir vos chères études par aussi la main dans la pâte.
Oui, tout à fait. Je suis un spectateur engagé, en quelque sorte, en fait.
Comme disait Raymond.
Et d'ailleurs, le titre « Carnet monétaire » fait directement référence à des carnets de route, en fait, des carnets de bord. D'un spectateur engagé parce qu'acteur dans le monde de la finance, en plein milieu en fait de la montée des déséquilibres depuis la moitié des années 90, qui ont déjà conduit à deux bulles et leur éclatement. La dernière est aujourd'hui dans l'actualité. Et je dirais, chemin faisant, je me suis posé un certain nombre de questions, d'abord au sein de la dynamique propre à la finance, en fait, et puis plus largement sur l'économique et la finance en tant que discipline, ce qu'ils étaient devenus à l'âge moderne, en fait, la façon dont ils étaient pensés, la façon dont leurs concepts principaux étaient nés, s'étaient développés et étaient pensés aujourd'hui, ce qui m'a conduit, je dirais, de proche en proche, en fait, à m'interroger sur ce que j'appelle la généalogie de l'économique, en fait, hein, comment l'économique est devenu ce qu'il est aujourd'hui à l'âge moderne, à partir d'une autonomisation de la discipline, en fait, au tournant moderne. Et au passage, une forme de rupture, en fait, parce que c'est une rupture d'autres disciplines, en fait, la philosophie et l'histoire.
D'accord. Alors là, vous touchez à un point extrêmement important. D'ailleurs, je signale au passage que, d'abord, vous n'êtes pas resté silencieux pendant des années, puisque vous publiez de façon régulière des chroniques économiques qui étaient très lues et très attendues lorsque vous étiez chef économiste. Et par ailleurs, vous avez collaboré dans un ouvrage récent qui sous l'égide du Cercle Turgot, qui s'appelle « Regards croisés sur l'économie ». Et justement, ces regards croisés font intervenir des disciplines complémentaires à la science économique. Alors, est-ce que vous diriez que la science économique, à la lumière de la crise, a démontré certaines limites, ou ses limites ?
Je pense que toute période de crise est une période, est à la fois la période de la décision et la période du commencement, en fait. Hein. Donc ce sont des périodes propices aux refondations, en tout cas aux interrogations. Je pense que les crises, ou la crise, qui est en fait la crise d'un régime macroéconomique financier plus global que je décris dans les carnets monétaires, fournit l'opportunité de se pencher sur un certain nombre de fondements de l'économique à l'âge moderne, et la façon dont ont été pensés un certain nombre de concepts clés, la valeur, le temps, l'équilibre, parmi d'autres.
Alors le temps, c'est effectivement une dimension sur laquelle vous insistez beaucoup et qui semble avoir été peut-être sous-estimée ou en tout cas pas suffisamment prise en compte dans les analyses de vos collègues ou confrères. Ou est-ce que vous croyez que cette valeur temps est suffisamment...
Je pense qu'elle est au cœur, en fait, de l'économique, en fait, et de la finance en particulier. Tout phénomène économique ou financier est in fine une différentielle du temps, en fait. La façon dont le temps est pensé dans la discipline est quelque chose d'essentiel, en fait. Ce que j'ai particulièrement, creusé, c'est, le temps, finalement, quel est le régime temporel dans lequel l'économique et la finance sont pensées aujourd'hui, en montrant que le référentiel temps, en fait, était essentiellement celui de la durée, en fait, de la durée déformée par des phénomènes de mémoire et d'oubli, en fait. On anticipe le futur comme on oublie le passé. Cette analogie que Maurice Allais a développée de façon extrêmement fructueuse, je l'ai repris à mon compte assez largement en la creusant. Il me semble que l'économique est, la matière temps qui est au fondement de l'économique et de la finance, c'est la durée, comme stock en fait, comme cire froide, dirait Descartes. Et cette cire froide est informée, déformée, de façon non linéaire d'ailleurs, ce qui rejoint les travaux sur la finance fractale de Mandelbrot, elle est informée, déformée par l'oubli et les rappels à mémoire, en fait, qui se succèdent de façon non linéaire, et d'où les phénomènes de dislocation et d'accélération non linéaire qu'on constate sur les marchés financiers.
Et au centre de ces déséquilibres, le problème du traitement de l'information et de la symétrie de l'information, peut-être ou pas?
Oui, c'est un des éléments, et plus que là, je dirais, l'information, ce qui m'a intéressé en particulier, c'est toujours en relation avec le temps, c'est la formation des anticipations, en fait.
D'accord.
Le temps au cœur de l'économique et surtout au cœur de la finance contemporaine est le temps qui est à venir, en fait. Je dirais, au cœur de la finance, il y a des anticipations. Les bourses sont fondamentalement des lieux de confrontation, d'anticipation. Et la façon de les définir n'est pas simple. Je me suis, aventuré sur le chemin consistant à consistant à établir que ce qui est anticipé est toujours une fonction déformée de ce qui a eu lieu, en fait. Donc c'est bien une fonction du passé, déformée par la mémoire et l'oubli.
Oui, alors c'est là effectivement où les ports entre l'économique et, la philosophie commencent à apparaître. Vous dites dans votre ouvrage quelque chose qui me paraît très, très puissant. Le régime de croissance actuel et l'architecture du système mondial ont leur cohésion, leur tension et leur déséquilibre renvoient à leur soutenabilité. Ça veut dire quoi rapporté à la crise actuelle ?
Alors ça, je dirais, c'est une thèse centrale dans les carnets monétaires, en fait, hein, sur ce qui nous est arrivé dans l'économie et la finance mondiale depuis une quinzaine d'années. Je pense que c'est important de pouvoir penser à partir de l'idée de régime macroéconomique et financier. Un régime, c'est un ensemble de caractéristiques qui font corps ou bloc pendant un certain temps, jusqu'à être, je dirais, renversé ou dépassé. Par leurs propres conséquences ou leurs contradictions, en fait. Dans le régime macro-financier dans lequel on se trouve, où on est entré, au milieu des années 90, on trouve de la surliquidité, on trouve de l'endettement privé, principalement, on trouve une inflation qui a pris la forme d'une inflation du prix des actifs financiers, et non plus l'inflation traditionnelle du prix des biens et services, on trouve un partage de la valeur ajoutée qui s'est déplacé du côté des profits par rapport au salaire. On trouve enfin le statut du dollar, en fait, qui est à la fois, je dirais, le couple statut du dollar et déséquilibre extérieur américain. Ce couple étant à la fois source de croissance mondiale et aussi incubateur des déséquilibres et des crises, en fait.
Est-ce que vous pensez que cette tendance-là, cette source de déséquilibre, elle peut être corrigée sensiblement et rapidement par ce que Jacques Mistral appelait la troisième révolution américaine, on va dire l'arrivée d'Obama au pouvoir, et peut-être l'influence que sa politique, ses plans auront sur à la fois la confiance et le niveau du dollar?
Je dirais, dans l'immédiat, il s'agit de penser les plaies et d'éviter, ouais. d'éviter le pire, en fait.
On est passé très proche jusqu'à présent.
On est passé assez proche, en fait. Il y a quelque chose de fatal ou de profondément nécessaire dans ce qui se déroule, en fait, hein, puisque les déséquilibres dans ce régime économique et financier prennent la forme d'inflation du prix des actifs financiers. On a eu en 2000 une bulle associant surinvestissement et surendettement des entreprises, une bulle sur le prix des actions, en fait. On a eu plus récemment un triptyque associant surconsommation, surendettement des ménages et prix de l'immobilier. Ce triptyque se mettant à tourner de plus en plus vite avec, je dirais, une connotation en quelque sorte technologique qui est la titrisation. Mais sur le fond, en fait, c'est une bulle au cœur du régime, en fait, qui associe le prix d'un actif financier, une variable réelle, la consommation ici, et un acteur, les ménages. De la même façon qu'à la fin des années 90, cette bulle associait une classe d'actifs, les actions, un acteur, les entreprises, et bien au-delà de l'Internet, et une variable qui était l'investissement, en l'occurrence surinvestissement. Les deux bulles ayant, je dirais, un lien profondément nécessaire, puisque pour éviter le pire en 2001, on a transmis en quelque sorte la bulle de la sphère des entreprises vers la sphère des ménages par la baisse des taux d'intérêt et l'appréciation du prix des actifs immobiliers. La titrisation apportant la touche technologique, en fait, de la passation de ballon, en quelque sorte.
Et
puis, comme disait Rueff, en matière monétaire, on a les conséquences, en fait. Et donc, la conséquence, en fait, a été l'éclatement de cette bulle, en fait. Donc, l'urgence est d'en penser les plaies, puisque, faute d'avoir apuré un certain nombre des équilibres, on se trouve, je dirais, 6-7 ans après l'éclatement de la bulle de 2000, avec, je dirais, des dégâts plus larges, en fait, et plus difficiles à contrer dans leurs effets négatifs à partir des outils conventionnels que sont la politique monétaire et la politique budgétaire, d'où, d'ailleurs, l'ampleur de la mobilisation du policy mix, hein, politique monétaire, politique budgétaire, et au-delà des actions conventionnelles, puisque on a, par exemple, une banque centrale américaine qui se met acheteur, je dirais, direct d'un certain nombre d'actifs touchés par la crise.
Et alors, est-ce que ce n'est pas l'apparition d'une nouvelle ligne Maginot Après la première ligne, on va dire les entreprises, après la deuxième ligne, les banques, est-ce qu'on n'arrive pas, même la quatrième ligne, enfin les États, après les banques centrales, est-ce que ces lignes qui ont sauté à l'occasion de la crise financière, en tout cas les premières, ne sont pas en train d'être menacées à leur tour, ces dernières lignes Maginot, d'ailleurs celles des États et avant celles des banques centrales, compte tenu des engagements, des plans, et est-ce que la valeur de ces lignes Maginot nouvelles a à vos yeux encore un sens ?
Je dirais, ben, le pire n'est jamais sûr en fait. Hein. Le risque macroéconomique qui est au cœur du régime macro-financier que j'évoquais est d'ordre déflationniste en fait. Hein. Puisque ce régime que j'évoque, qui lie de façon extrêmement proche un actif financier, une variable réelle, un acteur en fait, produit des bulles, inflation du prix des actifs et non pas inflation traditionnelle. Lorsque ces bulles éclatent en fait, elles produisent une logique d'ordre déflationniste en fait. Et on le voit bien dans la crise.
C'est de la régulation par les bulles, quoi, en fait. Hein.
Crise actuelle, donc le risque est bien déflationniste. La crise est globale. Elle a franchi les barrières d'espèce, en quelque sorte. Hein, partie du système bancaire, elle a touché les pays émergents et désormais la sphère des entreprises non bancaires, en fait. Et elle implique à présent des États, en fait, hein, en particulier des États, pays développés, puisqu'on a vu une suspicion croissante des marchés financiers, qui se paient de taux d'intérêt plus élevés, en fait, vis-à-vis de la soutenabilité d'un certain nombre d'endettements. Sur le fond, le traitement de la crise actuelle consiste à déplacer, si vous voulez, les déséquilibres du secteur privé vers le secteur public, puisque dès lors que l'envie de consommer ou le désir de prêter s'évanouit dans la sphère privée, il faut bien que quelqu'un s'y substitue. Et donc les plans d'intervention divers et variés qui sont en cours s'analysent en dernier recours comme le transfert en fait d'un certain nombre de déséquilibres vers la sphère publique, qui poseront probablement une question à terme, mais pas, me semble-t-il, à court terme, puisque, je dirais, les titres de dette publique qui sont au cœur de ces aides, en fait, aujourd'hui ne trouvent pas trop de difficultés à se placer dans une atmosphère générale d'aversion au risque et, je dirais, de...
Donc, pour l'instant, le marché ne croit pas au risque, on va dire... supérieur que je décrivais, puisqu'il accepte...
Il y aura une question de soutenabilité à terme, probablement, mais à court terme, me semble-t-il, non.
D'accord. Et alors, donc, en dehors de toute considération, on va dire, scientifique, vous, à titre personnel, vous voyez comment le déroulement de la crise, pensez qu'on a le pire est derrière nous, que ces politiques concertées... au niveau planétaire, sont de nature à nous éviter ce que d'autres scénarios beaucoup plus tristes de l'époque des années 30. Vous pensez qu'on a touché le fond ? Vous pensez que ça va se redresser ou rien n'est moins sûr ?
Je pense que, sur le fond, je reste optimiste, en fait. Hein. Oui. Je reste optimiste, mais je pense que nous sommes dans quelque chose d'assez durable, en fait, dont l'ampleur de choc financier puis réel, hein, qui est en train de se dérouler, nécessite une réaction d'une ampleur insoupçonnée au tout début de la crise. Réaction à la fois monétaire, budgétaire, sous des formes diverses. Donc il faudra d'abord voir se déployer l'ampleur de la réponse, en fait, qui est en cours. On parle du plan Obama. Mais il y en aura d'autres. Donc je dirais, dans le meilleur des cas, cette réponse permettra de stabiliser les choses et d'éviter le pire. Le pire étant que, les acteurs les plus fragiles de ce jeu aujourd'hui, que sont des ménages surendettés, en particulier dans le monde anglo-saxon, ne lâchent prise en fait, hein, et qu'on assiste à un ajustement violent du bilan des ménages, outre-Atlantique ou en Angleterre particulièrement même, mais pas uniquement là, assorti d'une remontée violente du taux d'épargne, et donc un ajustement in fine par une récession profonde.
Alors vous abordez donc en trois chapitres dans votre remarquable ouvrage que je rappelle, Carnet monétaire chez Economica, nominé pour la 22e édition du Prix Turgot. Trois grands chapitres, équilibre et déséquilibre, forme macroéconomique du risque, le régime de croissance, préférence, choix et soutenabilité, et dynamique des marchés, valeur et liquidité. Sur l'aspect liquidité, qui a quand même été à un moment donné au cœur de la crise, quel commentaire vous pouvez faire en liaison avec votre carnet?
Si vous voulez, un des paradoxes, je dirais, de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que la crise de liquidité, puisqu'il y a bien une crise de liquidité, résulte assez directement de la surliquidité qui a inondé les marchés et l'économie ces dernières années, elle-même résultant de politiques monétaires assez largement, je dirais, accommodantes.
Est-ce que vous qui êtes philosophe à quelque part, le désir morbide de liquidité de Freud, c'est en lien avec tout ça ou...
C'est une interprétation qui a été donnée, donc je dirais pour ma part et de façon peut-être plus humble en fait. Ce qui me frappe en fait, c'est le concept de liquidité n'est pas facile à définir en fait. Hein. Il peut être défini par le stock, c'est la masse des moyens de paiement disponibles dans l'économie mondiale. Elle est aujourd'hui importante en fait, ce que j'appelle la surliquidité en fait. Parce que les conditions, je dirais, de création monétaire sont restées très durablement accommodantes, au passage produisant une anesthésie de la perception du risque,
hein,
d'ailleurs. Donc ça, c'est une approche par le stock. Mais la liquidité peut être aussi approchée par sa circulation, en fait. Et aujourd'hui, ce qui se passe, en fait, c'est pas une absence de liquidité, c'est que cette liquidité ne circule pas, en fait.
Ouais, c'est bloqué, quoi.
Elle ne circule pas, donc sa vélocité a chuté, en fait.
Mais elle ne circule pas ou elle ne...
Elle circule pas assez, en fait.
Pas assez.
Elle circule pas assez dans la sphère réelle, en fait, donc pour des achats de biens et services. Elle circule pas beaucoup sur les marchés financiers. Pour des achats de titres, en fait, hein, qui sont les deux définitions de la vélocité qu'on pourrait, on pourrait avoir, ce qui produit du côté réel, en fait, de la désinflation, voire de la déflation. Hein. Moins une unité monétaire est utilisée pour acheter des biens et services, plus toutes choses égales. Par ailleurs, les prix ont tendance à baisser. Pareil dans la sphère financière, en fait.
D'accord. Donc on en est, pour l'instant, c'est la reprise d'une liquidité normale n'est pas encore avérée.
Alors, il y a une troisième approche qui est celle de Keynes, en fait, hein, qui est à l'œuvre dans la situation actuelle. La liquidité est définie à partir de la préférence pour la liquidité. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une préférence pour l'actif sans risque, en fait. Donc il peut alimenter soit dans la sphère financière une préférence pour les actifs monétaires sans risque et plus
la
généralement
risque, oui.
Voilà et plus généralement un souhait de thésaurisation en fait hein. Une raison pour laquelle dans les plans de relance les consacrer uniquement à la relance de la consommation ou de la demande intérieure peut se heurter au fait que tout euro additionnel injecté sera peut-être thésaurisé dans cet environnement. D'où la pertinence d'explorer le volet investissement d'infrastructures.
Mais sera thésaurisé ou utilisé à acheter des biens de consommation importés.
Exactement.
C'est encore pire.
Je ne sais pas si c'est pire.
En tout cas, c'est une
possibilité, mais il me semble que le risque premier,
c'est la thésaurisation,
et que des bilans sous tension, et plutôt, je pense à aux ménages en fait, hein, et plutôt tendance à thésauriser l'unité
donc
monétaire.
Donc complètement, enfin, avec l'efficacité extrêmement relative,
voilà.
Alors que l'investissement, évidemment, peut-être que l'effet retour est limité à court terme, mais que par contre, on peut penser que sur la durée, c'est la bonne approche. C'est en gros votre approche.
Oui, en cela, c'est la recommandation keynésienne, en fait. Lorsque le risque, parce que ce n'est pas la réalité aujourd'hui, d'une trappe à liquidité, comme disait Keynes, peut rôder.
D'accord, ok. Bien, alors donc, écoutez, je ne sais pas, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur votre ouvrage qui vous paraît à la fois central et puis surtout donner envie à nos auditeurs de se le procurer, ce livre qui est absolument remarquable, ne serait-ce que parce qu'il a été sélectionné par le Prix Turgot. Est-ce qu'il y a peut-être un point que je n'aurais pas abordé?
Cet ouvrage, donc, je dirais, restitue, du point de vue d'un observateur-acteur, ces 15 dernières années, les développements et la formation de ce régime. Il y a un certain nombre de développements sur le thème de l'inflation, en fait, hein, et sa mutation dans ce régime. Hein, de moins en moins l'inflation classique, de plus en plus l'inflation du prix des actifs financiers, montrant au passage que l'inflation est toujours et partout un phénomène différentiel. Certains prix montent plus ou baissent plus que d'autres, en fait, et on se trouve dans ce régime avec une certaine façon une préférence implicite, parce qu'elle est implicite, pour une certaine forme d'inflation, qui est l'inflation du prix des actifs financiers. Et donc des bulles, en fait, hein, c'est au cœur de ce régime. Dans les années 70, le régime associait de l'endettement public, sa monétisation et de l'inflation classique. Dans le régime actuel, c'est plutôt de l'endettement privé, une inflation financière, en fait, hein, donc des bulles. Voilà, et donc je dirais, cette préférence implicite, elle n'est tolérée que jusqu'au point où elle n'est plus tolérée, en fait, et où, je dirais, pour différentes raisons, le corps social la rejette, donnant mandat à un acteur pour la combattre, en fait, ou la réguler. À la fin des années 70, un consensus s'est formé pour juger non tolérable ou non durablement tolérable l'inflation classique du prix des biens et services. Et dès lors, mandat a été donné aux banques centrales pour lutter contre cette inflation. Il me semble que les crises, les éclatements de bulles que nous vivons depuis 10 ans ouvrent le champ d'une réflexion au moins pour au moins réguler l'inflation du prix des actifs financiers. Alors ce n'est pas simple, mais il faut se pencher sur le sujet et éventuellement donner aux banques centrales, à moins qu'elles ne s'en saisissent elles-mêmes, les outils ou le mandat pour contrôler et réguler ces déséquilibres, en fait.
Ce qu'elles ont donc fait de façon imparfaite, que les incendiaires, comme disait Artus il y a quelque temps.
Alors, je dirais, leur mandat ne le prévoit pas. Elles le font en termes d'analyse et de suivi. Et il me semble que dans le régime contemporain économique et financier, il y a une articulation profondément ancrée entre le réel et le financier. Et dès lors, les outils de régulation, banque centrale et autres, doivent partir de l'idée que le réel et le financier rétroagissent, interagissent dans les phénomènes de croissance, mais aussi dans les déséquilibres.
Écoutez, sur votre ouvrage économique, Carnet monétaire, ce sera le dernier mot. Encore bravo. Un ouvrage qui s'adresse à la fois à un public averti, bien entendu, mais aux étudiants et à tous ceux qui apprécient à la fois l'économique et la philosophie, et à tous les observateurs de l'économie.
Oui, tout à fait, parce que l'ouvrage comporte une partie, je dirais, descriptive et interrogative du régime, comme je l'ai évoqué. Il comprend aussi une partie, je dirais, un peu plus pratique pour l'acteur que je suis du monde économique et financier, consistant à se demander, dans ce contexte-là, comment apprécier la valeur sur un marché des actions, des obligations.
Ouais, c'est relativement central aujourd'hui.
Voilà, comment estimer et naviguer dans ce régime-là.
Ce que vous dites, le concept de régime est le lieu où peut être pensé authentiquement l'économique. Alors, je rappelle le nom de votre ouvrage, Carnet monétaire, chez Economica, 27 euros. Et donc, juste un mot de conclusion sur votre dernier ouvrage, Théorie globale de l'intérêt du cycle et de la mémoire. Donc, très brièvement, en synthèse, qu'est-ce que vous avez voulu dire et qu'est-ce que vous dites dans cet ouvrage ?
Donc, la théorie globale est un ouvrage d'économie, en fait, hein,
oui.
Théorique,
et, en fait. Et qui s'adresse donc là plutôt à un public, on va dire, très averti, et d'étudiants, de professeurs, etc.
Donc, si vous voulez, cet ouvrage place le temps au cœur de la dynamique globale, en l'occurrence, des sphères réelles et financières. Par global, on entend aussi cela, et de leur crise, en fait. Hein. Cet ouvrage dit que tout ce qui est économique est toujours réductible à une différentielle du temps, en fait. Hein. Les états absolus et relatifs de l'équilibre, hein, la dynamique économique, la dynamique monétaire, reposent fondamentalement sur la valeur accordée au temps, et tout particulièrement sur la mémoire et l'oubli.
Mmh. Ce qui rejoint tout à fait vos travaux précédents.
Voilà, ce qui permet, je dirais, de développer une théorie du cycle qui se déploie à partir de cette valeur qui gouverne les préférences et les substitutions entre biens, services et actifs financiers.
Eh bien, écoutez, nos auditeurs vont se ruer vers cet ouvrage paru chez Economica, qui est donc disponible maintenant en librairie, qui a eu déjà un très bon accueil. Voilà, c'était donc un entretien avec Pascal Blanquet, un acteur de l'économie, un auteur prolifique et brillant, qui se propose de jeter un pont entre la philosophie et l'économie. Merci à vous, cher Pascal Blanquet.
Merci.